Et peut-être ça peut nous amener à parler du BVH.
Les BVH, les bibliothèques virtuelles humaines.
Ils ont fêté leurs 20 ans.
Oui, on a célébré ces 20 ans.
Vous avez beaucoup contribué sur ce programme ?
Par les catalogues que j'avais déjà fait un repérage du 16e siècle de la maison, et puis dit aux collègues ce que je voyais comme le plus rare et le plus facile à numériser aussi. De ce côté-là. Et puis, mes catalogues d'incunables, celui notamment de Bourges, a été sollicité parce qu'il y avait des recueils particulièrement intéressants et qui nous intéressaient du point de vue du contenu. Dans ces bibliothèques virtuelles humanistes, des livres du XVIe siècle, avec les extensions de tout ce qui peut être régional en matière de XVIe siècle, même si c'est du XVIIe, des coutumes de Bourges ou d'Issoudun, même qui évidemment change quelques éléments de la coutume publiée au XVIe siècle, mais dont l'essentiel est quand même toujours le même. Vous voyez, même chose pour la liturgie, pour les auteurs locaux, évidemment. C'est sur ce point-là qu'on a mis l'accent dans les BVH. Et puis, c'est Marius de Monet. Qui a œuvré pour la création de ce pôle documentaire important, qui maintenant s'étend, puisqu'on a eu des contacts avec Orléans, et avec Orléans, on est toujours avec même chose pour le Mans, pour Angers, on a même étendu au-delà de la région ces enquêtes et ces numérisations, puisque c'est des ouvrages qui sont en ligne. Blois, il y a eu Blois, il y a eu Châteaudun, oui. Bourges, comme je vous disais. Donc tout ça, mais c'est l'initiative en revient à Marius de Monet, qui était déjà très informé sur les capacités, les possibilités que représentait la numérisation pour nos études. Elle avait déjà commencé avec Rabelais, évidemment, tout ce qui est Rabelais et Montaigne, c'est elle et Alain Legros, qui ont un très beau site. Alors, Monlo, c'est Montaigne. Alors, je ne sais plus pourquoi c'est Monlo, M-O-N-L-O-E.
Montaigne.
À l'œuvre, heureusement vous êtes là. Montaigne à l'œuvre, avec toutes sortes de choses qui sont pas seulement, qui sont la reconstitution notamment de la bibliothèque de Montaigne dans la tour. Tout cela est accessible sur le site. Et les livres annotés par Montaigne, ça a parfois été assez redoutable quand c'est des collections privées. Les propriétaires devront être caressés dans le sens du poil pour accepter leurs livres. Je crois que perd pas en valeur, si vous voulez, mais c'est plus le petit objet qu'on se garde à soi avec quelques notes du grand Montaigne. Et même chose pour Rabelais aussi, c'est deux territoires qui sont toujours très, très surveillés, complétés, animés par... Alain semble un peu réticent, un peu là, mais bon, je lui dis que c'était une condition de sa santé et que de continuer à veiller au bon fonctionnement de son site et à toujours y apporter des éléments nouveaux. Donc, les bibliothèques virtuelles humanistes. Alors, il y a des campagnes, on traite avec je ne sais plus quelle maison de numérisation dont nous sommes toujours contents. Mais c'est une entreprise difficile. Quand on a des petits livres un peu attrayants, tournez les pages bien attentivement. Quand vous êtes dans les 320 feuillets de papier latin, c'est parfois pas tentant, mais il arrive parfois qu'on saute deux pages. Alors après, faut le contrôle qualité qui est extrêmement lassant aussi. Donc il y a encore des numérisations qui ne sont pas en ligne parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des difficultés, enfin des défauts. Or, après, réinsérer des pages dans une numérisation, c'est une autre entreprise qui n'est pas... Alors, ça nous arrive de le faire en bricolage, c'est-à-dire qu'on voit qu'il manque une ou deux pages, ben, on fait une autre photo qui n'est pas de la qualité, de la dimension, enfin, faut bricoler pour la réinsérer dans la numérisation technique haut de gamme. Mais bon, c'est quand même très très utile, très belle notice introductive qui présente le livre, qui présente ses caractéristiques, qui aide, si vous voulez, ou des chiffres, enfin, à l'identification du volume, à sa spécificité. Et ça se continue. Alors, on a eu beaucoup récemment. Puis alors, il faut aller sur place, hein, pas surveiller, mais voir si les choses se passent comme il faut. Donc c'est un gros travail dont Toshinori Uetani est en charge, en gros. Voilà. Les BVH, Bibliothèque Virtuelle Humaniste. Oui. Humaniste, bon, largement entendu, c'est-à-dire, toujours sous l'enseigne initiale que Pierre Ménard avait donnée à la maison, de Pétrarque à Descartes. Oui. Voilà. Les deux au bout compris. Hein. Oui. Donc, Descartes, on s'en occupe moins, bien sûr, puisqu'il y a d'autres philosophes, chercheurs qui sont sur ce sujet. Et puis, bon, la précision des études aujourd'hui devient telle, le nombre d'études sur le seul XVIe siècle, parce qu'on est italien, allemand, anglais, français, espagnol, enfin, c'était le principe de la maison, hein. C'était que c'était l'Europe, l'Europe et même au-delà, puisqu'on a eu des colloques autre temps de la maison, autre temps fort de la maison, et des colloques sur les frontières religieuses, mais qui pouvaient être évidemment hors, assez loin de l'Europe, même quand l'Europe était concernée. Le humaniste, oui, frontière, voilà, la période. Donc on a tendance à réduire, évidemment, nos ambitions chronologiques, dans la mesure où d'autres s'occupent du XVIIe siècle. Le XVIIe, on l'a laissé un petit peu de côté, parce que ça fait, c'est plus notre territoire. Vosgelas, c'est plus nous, même oui, si, voilà.
On est passé à autre chose. Et je voudrais vous poser une question plus large. C'est comment vous avez vécu en tant que spécialiste de l'histoire du livre imprimé, l'apparition d'abord du web, puis des publications numériques.
Oui.
D'un point de vue professionnel, vous avez commencé à travailler, vous le disiez tout à l'heure, juste avec du papier, des fiches.
Oui, tout à fait.
Et puis, se sont ouverts des horizons à la fois de numérisation, des catalogues en ligne, de partage. Comment vous avez vu ces grands changements ?
Ah ben avec le plus grand plaisir. Hein. Je veux dire, quand on accède à un exemplaire qui est conservé à Cracovie, ça, ben oui, jamais je l'aurais vu. Bon, et puis je le vois comme ça, j'ai à côté de moi, et je peux le feuilleter, c'est incomparable, incomparable, incomparable. Bon, il y a des numérisations qui sont plus ou moins bonnes. Hein. Il y a eu les repiquages de la Bibliothèque nationale de France au début où il fallait des numérisations de microfilms qui étaient passées un nombre incalculable de fois sous le lecteur, dont les rayures, évidemment, oblitéraient une partie. Sans compter les pages. Ah ben non, c'était... Bon, aujourd'hui, on a quand même de très belles choses à la BNF. Hein. Du très haut, bien piqué, le coloris parfait. Ça a progressé. Bon, mais c'était utile quand même. Mais quand même, et quand vous aviez... Là, il y a encore trop de choses comme ça qui ne sont pas tout à fait vérifiées. C'est dans les revues. Revues, on a 1892, 93, 94, 95, ça manque. Bon, c'est pas une revue clandestine hein, dont on trouverait pas. C'est que bon, on a laissé passer, puis c'est un petit peu ennuyeux. Ou bien le fascicule janvier-mars. est absent. Bon, ce qui vaut quand même... Et puis, il y a d'autres sources. Enfin, les sources... Mais pour les sources françaises, c'est quand même surtout la BNF. Hein, la Mazarine aussi, on a. Mais c'est surtout la BNF où l'offre est la plus large. Mais c'est un petit peu ennuyeux. Mais la qualité actuelle des livres, je dis pas, les livres d'anciens, c'est surtout ce que je présente, est tout à fait belle. Hein. Oui, non, c'est incomparable. On revient sur le... Mais pour le travail, je dois dire que le papier est encore, par certains moments, je le vois pour le prochain catalogue, enfin, des catalogues de... à la révision desquelles je suis attelé, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais, qui a commencé avec Frédéric Barbier, quand il était bibliothécaire à Valenciennes, il a travaillé, c'était dans les années 70 peut-être, hein, quelque chose comme ça, et Frédéric a eu d'autres activités, évidemment, qui l'ont obligé à abandonner ça, et puis on l'a laissé un peu trop longtemps, et puis il a vieilli de telle façon qu'aujourd'hui, l'ordre même des notices nous serait reproché. Parce que les noms... Il est numéroté par alphabétiquement de A1 à A280, B1 à... Mais on ne peut plus arriver à maîtriser à l'écran les changements qu'on voudrait faire dans cet ordre. Je vois que le papier qui puisse, c'est curieux, hein, qui puisse permettre de tirer la notice en question et de les replacer, à l'endroit où aujourd'hui elle doit figurer. Par exemple, les pseudo-Aristote, ils figurent pas au milieu des Aristote par ordre alphabétique d'œuvre. Mais il figure après, c'est la règle. Aristote, puis pseudo-Aristote, même si le titre pourrait s'intégrer au vrai Aristote. Et je vois pas comment faire ça. On se mélange à l'écran, on n'y arrive pas. C'est des bizarreries de... Je vois pas de moyens automatiques, parce qu'il y a trop de choses. À l'intérieur d'une notice, vous aurez des références qui vont renvoyer à B23. Mais B23, il va avoir changé. Donc là, il faut reprendre toutes ces choses qui je vous dis, est incompatible avec un catalogue aujourd'hui, disons, présentable de ce point de vue-là. Non pas que les notices soient fausses, mais on peut plus... Il y a encore des contestations selon les catalogueurs, par exemple. Pierre Dailly, qui était un prélat, homme de science du XVe siècle, évêque de Cambrai, Pierre Dailly, il y a encore des catalogues qui cataloguent sous Pierre et d'autres sous Ailly. Ailly, c'est... théoriquement, Ailly, c'est son nom de village. Il faut le mettre à Pierre, comme le Gesamt doit le mettre. Enfin, voilà. Mais il y a le vieillissement de certains catalogues entraîne des délais beaucoup plus longs que d'autres contraintes. Et que l'informatique n'est pas en mesure de traiter, facilement. Le papier, encore, c'est un secours, semble-t-il, sur ce point-là notamment, nécessaire. Évidemment, à côté de ce qui n'est pas une faiblesse, mais une contrainte, ce qu'offre... Incomparable. On a des caractères spéciaux, hein, vous savez ça. Des lettres ligaturées, des lettres conjointes, etc. Des formes spécifiques, avec des traits dessus, des traits dessous, des barres. Quand j'ai commencé... Alors, théoriquement, les catalogues régionaux ne donnent plus de transcription exhaustive, sauf s'il s'agit d'un exemplaire inconnu jusqu'alors, jamais bien décrit, où on fait la description à la mode de Paulin, pour prendre. Donc, avec les quasi-facsimilés, comme disent les Anglais. À l'époque, c'était encore. Moi, j'ai des fiches, j'ai tapé à la machine pour mon catalogue du numéro 10. Et alors là, il y avait des descriptions longues ou des mentions que je voulais vraiment faire figurer telles qu'elles apparaissent, soit manuscrites, soit imprimées, dans le texte. Et alors là, je découpais je faisais des photocopies de descriptions longues, soit dans les catalogues anciens, mais elles ne sont pas très bien, surtout dans le Renoir. Dans le Renoir, le grand Renoir, il y avait des descriptions longues avec des lettres, justement, adéquates à la façon ancienne. Alors je découpais ça, je les agrandissais autant que je pouvais à la dimension qui était celle du caractère typographique normal, et puis je les collais là, vous voyez le boulot, c'était alors là j'ai bénéficié, donc l'informatique a été exceptionnellement utile, j'ai bénéficié là des secours de Patrick Gilbert était notre informaticien dans les premiers temps de l'informatique, et il avait été recruté par Jean-Michel Vaccaro, et c'était un expert. Il a dessiné les caractères qu'il me fallait en prenant la police de base qu'on utilisait, Adobe Garamond, et il a créé le Gargile 4, parce qu'il y a eu plusieurs versions, donc Gilles c'était son nom, prenant pour base un caractère classique de la police, il y ajoutait les petits signes, la petite barre, le tilde, et puis même dessiné complètement. Par exemple, il y a une abréviation que vous savez, le room, qui est une sorte de 4 avec une barre perpendiculaire, et qui était très caractéristique et très fréquente. Alors je vous remettais un 4. Non, c'était pas bien beau. Hein. Donc il dessine ceci. Et on en a quand même, je ne sais pas combien de caractères spéciaux, les quam, les quad, tous les tildes. Les tildes, c'était pas le plus difficile, hein, il suffisait de. Mais ils sont plus jolis que. Alors, il faut aussi il me fallait des caractères pour la translittération des auteurs, notamment arabes et juifs. Donc Ibn Rushd, alors je sais plus le nom, le détail, mais il y a des A longs, il y a des A capitales longs avec un trait au-dessus ou un trait au-dessous, etc. Donc il a aussi complété de ce côté-là, de sorte que nous avons deux bonnes pages, au moins deux bonnes pages de caractères spéciaux, symétriques ou clones, descendants en quelque sorte, Adobe Garamond, je ne sais plus laquelle. Alors la grosse panique l'année dernière, InDesign ne veut plus accepter que certain nombre de polices. Ouais. Donc jusqu'à maintenant, InDesign acceptait notre Garamond Gilles 4. Qu'est-ce qu'on va trouver comme substitution? On cherche, les spécialistes du domaine ont cherché, c'était pas beau, mais c'était pas beau. Le corps se réduisait pas. Alors, ça veut dire être un tout petit. Oh, le room, alors mon room, dont on était si contents, si joli. Panique générale, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on se dit, on va faire des PDF qu'on va insérer. Qu'on va caler comme PDF dans des descriptions là où on peut avoir des caractères spéciaux justement qui ne seraient plus acceptés. Et notre nouvelle, parce que Alice est passée sous d'autres cieux, elle est par ici ?
Elle est ici.
Elle est ici ?
Au premier étage.
Au premier étage, d'accord. Elle était remplacée par Agathe. Agathe, je lui soumets le problème, puisque c'est elle qui doit prendre le relais. Elle ouvre son InDesign. Elle me dit, mais non, InDesign va accepter les Adobe. Donc elle essaye avec la police classique, Adobe, et puis elle tente avec... Et elle passe aussi. Apparemment, notre police recomposée, reconstruite, spécifique, Gargile 4, qui a été complétée d'ailleurs par Michael en son temps, parce qu'il manquait des signes et il avait repris le problème, m'a ajouté donc un certain nombre de... Et donc, miracolo, c'est bien qu'on puisse reconstruire le catalogue qui est en cours, qui est fini, mais qui est en cours de composition, qui s'appelle La Bourgogne, par Dominique Coq, qui est un co-associé de l'entreprise, bien sûr. La Bourgogne, beau et gros catalogue, donc je pense qu'on n'aura pas de problèmes assez contraignants, hein, ça aurait été même très difficile, d'insertion de PDF au milieu du texte, puisqu'il reçoit les PDF, InDesign, alors traité comme image en quelque sorte, ça ne serait pas... Donc là, c'est une bonne surprise, et ce catalogue, donc du moins dans sa forme... Alors après, il y a le domaine de l'image, parce qu'on a quand même, dans les catalogues, les images en noir et blanc, là ça pose aucun problème de supplément de coût, mais je ne sais pas si c'est en Suisse que c'est particulier, mais les planches couleurs auxquelles on a le droit, c'est-à-dire 16 par volume, un cahier de 8, sont très très chers, c'est un surcoût.
Bon. C'est Dross.
C'est Drault. C'est joliment fait. Hein, D'ailleurs, c'est Drault qui s'occupe des relectures, des machins. Mais c'était Payard à Abbeville qui est la typographie. Hein, donc, c'est un très beau travail. Hein, un joli papier. Du point de vue formel, on n'est pas du tout. Alors, évidemment, il y a toutes les variantes possibles dans la couleur selon les tirages, l'image numérique qu'on donne n'est pas toujours de la même qualité parce qu'elle est faite par les bibliothèques parfois, par les intéressés, les fabricants du catalogue d'autres. Donc, bon, moi, c'est pas encore trop concret, mais on a de belles choses. Voilà nos problèmes typographiques qui sont, semble-t-il, résolus. Pour cette affaire de caractère qui m'ennuyait vraiment, vraiment beaucoup, parce que régresser, je trouve ça absolument pas possible, de régresser dans l'esthétique d'un volume par rapport à un volume qui a été publié 4 ans ou 5 ans avant, c'est moins bien, alors que ça devrait être toujours un peu mieux avec les progrès. Donc on a deux, et puis il fallait aussi s'assurer de la collaboration possible de Pauline Borde. Pauline Borde qui est elle aussi spécialiste de la composition typographique en freelance. Un petit atelier qui est près de la cathédrale, qui a travaillé déjà pour les catalogues d'incunables et qui avait beaucoup de travail, donc qui ne voulait pas entreprendre ce Bourgogne. Donc les choses devraient, pour cette année qui s'ouvre, se présenter très favorablement pour ce volume qui portera le numéro, je crois pas, 23. C'est pas mal pour une collection. Ouais. Alors en tout, oh, c'est lent. Mais je dis, le catalogue de la British Library, des incurables de la British Library, le premier numéro doit remonter à 1905 ou 6. Et le dernier à 2005-6, quand même, le dernier. Un siècle. Je trouve que c'est pas déshonorant d'être seulement encore
une
quarantaine d'années.
C'est une belle conclusion. On en vient un peu au terme de l'entretien. J'avais encore deux petites questions à vous poser. La première, c'est s'il y a vraiment un souvenir marquant dans votre vie de chercheur que vous souhaiteriez évoquer ici.
Ah, oui, c'est tout à fait, mais anecdotissime, c'est que, ça c'est la bibliographie lyonnaise, j'étais allé à la bibliothèque Mazarine pour y voir un volume très rare en français, je ne sais plus si c'était La vie de Merlin ou L'enchanteur Merlin, enfin quelque chose autour de ces légendes. Et puis, je vois cet exemplaire. Ça. Et puis, malheureusement, il y avait le titre, il y avait le... Est-ce que c'était bien... Ouais, il n'y avait plus de titre, peut-être. Je ne sais plus si c'était le titre. Enfin bon, il était incomplet. Incomplet d'une partie sur le titre. Je crois que c'était le titre. Et bon, ben, j'en fais avec. Hein. Des raretés comme ça, je pense que c'était... je ne sais pas s'il y avait un unicum, lui aussi. Hein. Bon, ben, je vais. Et puis, dans la même foulée, je suis allé quelques jours après au Cercle de la Librairie. Le Cercle de la Librairie conserve... Non, ça devait être ça. Ça devait être... conserve des feuillets séparés, le plus souvent avec la page ne compte d'ouvrages qui ont été soit démembrés complètement, dont on n'a conservé que cet élément, et l'élément... que les registres, les grands registres sur lesquels c'est collé, qui date du 19e siècle, ce sont des pages découpées d'ouvrages. Je sais pas, c'est peut-être... Alors aujourd'hui, tout ça est à Caen, où le Cercle de la Librairie a délocalisé ses collections de la rue Grégoire de Tours. Évidemment, c'était pas inextensible à la fille. Et je vais donc à la... Et puis, je demande les registres où je savais qu'il y avait des marques typographiques et je tombe sur le titre qui manquait. Alors, est-ce que c'est le même exemplaire? Mais ça correspond tout à fait. Les caractères étaient les mêmes. La marque typographique correspondait aux mentions du colophon. Enfin, donc, j'ai reconstitué dans la même... Je ne sais pas si c'est dans la même journée ou dans... Mais à quelques jours de distance, inespéré, c'est complètement inespéré, que j'ai en mémoire ce que je venais de voir à la Mazarine et que à 300 mètres à vol d'oiseau ou 500 mètres était conservé le complément. Voilà, c'est un souvenir parmi d'autres de ce heureux hasard qui... Mais j'en ai d'autres aussi, hein, mais dans des souvenirs humains, hein, bien sûr, mais ça c'est le... plus ou moins gay, c'est la disparition de Michel Simonin en 2002, que j'avais vu dans la matinée au centre, qui se plaignait, c'est quand même atroce. J'ai mal à l'épaule, ça doit... J'étais de l'eau trop longtemps à l'ordinateur, j'ai trop longtemps, je suis côté gauche, alors ça va pas. Françoise Guillon, vous voyez, qui était notre... Je crois que c'était elle qui était là, à ce moment-là, au secrétaire général de la maison. Elle lui dit, mais il faut que vous faites faire un électrocardiogramme, c'est pas normal, une douleur du côté gauche, c'est inquiétant, hein, on sait bien. Un médecin vient avec son matériel, il fait l'électrocardiogramme qui apparemment était parfait, tout à fait classique. Bon, Michel retourne chez lui, il communique les résultats à son médecin traitant. Tu ou vous, faites votre valise, je vous accueille, il y a une chambre pour vous. Diagnostiquer un truc pas clair. Il va chercher sa valise, et puis au même moment, il est tombé aussi dans la valise, foudroyé par un infarctus irrécupérable. Et là, c'était Gérald Schex qui était qui était directeur. Je t'annonce une terrible nouvelle. J'ai tout de suite identifié que c'était... Enfin, même avant qu'ils me disent, je lui ai pas dit, mais moi, ça me préoccupait beaucoup. Et surtout que l'électrocardiogramme était... Voilà, donc ça, c'est une de ces terribles affaires qui surviennent comme ça. Il était en pleine forme, si on peut dire, intellectuel, évidemment, c'est multifonction. Mais un homme... j'appelle ça sans fusible. Vous voyez, il y a des moments où... lui, il continuait. Il pouvait continuer, malgré, sans doute, surcharge dans tous les secteurs, tous les domaines. Il faisait 36 choses, il était capable de... Et puis, le cœur a cédé. Et alors qu'il avait quoi qu'il avait... Non, c'est la disparition de ses collègues... Bien avant l'heure. Il avait 50 ans à peine, si j'ai peut-être plus de 50. C'était vraiment terrible pour sa famille, son épouse et ses filles. Mais pour nous aussi, hein, parce que, Michel, c'était quand même une pointure, comme on dit, de la maison. Et puis au niveau international, bon, il n'était pas toujours reconnu, apprécié, parce que c'était quand même un caractère un peu bouillonnant, et qui avait des appréciations qui pouvaient déplaire, hein, c'est bon. Et je formulais surtout... Et puis l'autre, c'était Jean-Pierre Ouvrard, musicologue, lui aussi. Alors là, c'était un cancer du poumon et qui l'a emporté à 48 ans. Non, brillant, brillant dans tous les domaines, hein. Mais en musicologie, superbe, mais renaissante. Et puis toutes sortes d'autres interprètes. Avec Jean-Michel Vaccaro, ça faisait un binôme. Bon, où il y avait des frictions, forcément, mais enfin bon, c'était pas. Non, parce que les musicologues avaient le droit d'accéder, pour faire leur répétition, d'accéder au centre, même nocturnement. À une époque, on pouvait pénétrer comme ça sans autre forme de procédure, sinon une clé. Ben, la clé, elle est faite pour ouvrir, mais quand on s'en va. Oh, mais les musicologues, ils devaient parler de musique. Et puis, le lendemain matin, M. Martin, ou je ne sais plus qui lui avait trouvé la porte ouverte, ouverte ou pas fermée. Donc, on aurait pu pénétrer par la rue Rapin. Ils avaient accès de l'autre côté, du côté Rapin. Et sans aucun problème là-dedans. Donc, il fallait ramener les choses. Donc, Jean-Pierre, c'était. Et puis, donc, ça s'était déclaré là aussi. Ça a été très rapide, puisque c'était lui aussi, il avait mis ça au compte de la fatigue. Oh, j'ai eu mal, par moment, je suis essoufflé. Et puis, c'était en juillet, au moment du colloque, ou je ne sais pas quoi. On l'a enterré en novembre. Hein, oui, c'était. Donc, c'était un moment tout à fait pathétique.